voir notre congrès à la télévision, résolument, définitivement, il s'est passé quelque chose à la porte de Versailles. Le discours de Nicolas a exprimé sa vision et sa passion pour la France. Vous savez, quand on est sportif de haut niveau, tu le rappelais, Françoise, tout à l'heure, quand on est à l'approche d'une grande compétition, championnat du monde ou les Jeux, on a cette petite boule au ventre, cette appréhension de savoir si, d'une façon ou d'une autre, on va être à la hauteur, on va exprimer, on va réaliser finalement ce pourquoi on s'est préparé depuis bien longtemps. Je ne dis pas que c'est un sans-faute, ça n'existe pas les sans-fautes, mais je crois que Nicolas Sarkozy, le 14 janvier, a réussi ce premier pari, cette première étape, et on le sait, la route est longue. Celle à la fois de rassembler ses idées dans un projet magnifique, très fort, vers les Françaises et les Français, et surtout ce que nous attendions tous, c'est cette détermination, cette conviction qui va nous emmener, bien évidemment, vers la présidentielle, mais aussi les législatives et un an plus tard, Françoise, les municipales. Moi, je suis reparti de la porte de Versailles gonflé à bloc. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment, mais vraiment, je crois que nous avons fait le plein d'énergie ce jour-là. Alors, la route est longue, effectivement. Les ennuis de la gauche, quelque part, nous arrangent bien, mais je crois qu'il faut aussi être prudent. On le sait, tout ça tourne vite. Mais je crois que nous avons construit, François, je le dirais tout à l'heure, un projet, un programme pour la France, une idée de la France qui va nous amener, je crois, plein d'énergie, plein de force, plein de conviction, avec cette envie de convaincre l'ensemble des Français vers la présidentielle. Car nous engageons sur un sacré bout de chemin, la présidentielle jusqu'au municipal, avec au milieu, bien sûr, les législatives. Alors Philippe, nous sommes engagés à tes côtés, Françoise, et bien sûr avec toi, Jean-François, vers cette quête que seront les législatives sur ce territoire du 15e qui est beau. Je l'aime, ce 15e arrondissement. C'est vrai, on le sent vivant, dynamique. Et Françoise, tu as raison tout à l'heure quand tu dis que Paris aujourd'hui est en train de s'enfermer dans cette bonbonnière, sous l'impulsion en tout cas à cause de l'action néfaste du maire de Paris et de son équipe, tellement diversifiée, tellement diverse avec ses verts et ses fous furieux qu'on n'y reconnaît d'ailleurs plus aucune politique. Je crois que nous allons ensuite redonner du sens à Paris au travers de ces législatives. Redonner du sens, par exemple, pour faire en sorte que les riverains du tramway retrouvent une mobilité qu'ils ont perdue parce que le PC a disparu. Faire en sorte aussi d'assurer, si c'est nécessaire, le devenir de la porte de Versailles. On voit ici le maire de Paris commencer aussi à s'intéresser à ce sujet. Ouvrir plus de places de crèche, parce qu'il y a beaucoup de familles dans le 15e arrondissement qui malheureusement sont obligées de partir à Issy-les-Moulineaux ou à Boulogne parce qu'elles ne peuvent plus accueillir leurs enfants dans leur appartement. Alors nous avons, oui, un beau chantier à mener au travers de ces législatives. Et ma chère Françoise, nous formons une super équipe à tes côtés. Je crois que tu as, après les primaires, su nous rassembler, su nous exprimer justement ce souffle nécessaire, nous préparer au travers des assises et des forums, nous préparer à ce programme de reconquête de la capitale. Et là aussi, je peux te dire que nous te soutiendrons, nous t'accompagnons, nous te portons jusqu'au mois de mars 2008. Nous le ferons avec la force de notre conviction, en particulier parce que nous sommes solides. Avec Jean-Didier et avec Philippe, nous exprimons ce renouveau, cette volonté de trouver des solutions pour les Parisiens, de faire en sorte que l'action économique, le rayonnement de Paris ne se limite pas simplement à deux ou trois spectacles annuels, mais bien une volonté d'exprimer, comme le font toutes les autres grandes capitales partout dans le monde, un rayonnement des priorités, des exemples de réussite qui manque aujourd'hui à Paris. Alors oui, nous sommes avec toi, tu le sais Françoise, totalement, et je crois que cette dynamique enclenchée le 14 janvier dernier nous servira bien évidemment à la reconquête de Paris. Mes derniers mots, mes chers amis, vont à François Fillon. François, je t'ai vu à l'action au sein du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, tu as engagé des réformes complexes, difficiles à faire passer pour les Français. on le sait, celle des retraites en particulier. On n'est pas, on le sait, encore à l'aboutissement de cette réforme. Mais tu as eu le courage de l'engager, tu l'as porté. Je t'ai vu le faire. C'est vrai que notre pays va mieux, on peut le dire. Quelques frémissements sont là pour le démontrer. Un chômage en baisse, une croissance qui reprend, mais on le sait, cette situation est fragile. La voix de la France aussi a retrouvé sa place avec l'action de Jacques Chirac à l'international. Nous n'avons pas à rougir de ce constat. Mais aujourd'hui, il faut aller, j'allais reprendre une formule olympique, plus loin, plus haut, plus fort, peut-être plus vite aussi. C'est, je crois, tout l'enjeu de l'action de Nicolas Sarkozy et tout l'enjeu du programme que, dont tu as arbitré, François, les grandes lignes. Je t'ai vu à l'œuvre, nous t'avons vu à l'œuvre, Françoise, car j'ai eu la grande chance et la grande fierté d'assister aux dernières réunions d'arbitrage concernant le projet. Tu l'as porté là aussi avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Et je sais que, parce qu'il y aura la victoire de Nicolas Sarkozy, tu sauras mettre en œuvre ce projet pour la France. Comment vous dire ? C'est un moment très, très fort que nous vivons aujourd'hui, ici, au cœur de Paris, avec Vincent et Jean-François. Je le vis vraiment comme une compétition sportive, je vous le dis. Je ressens ces mêmes picotements, cette même envie d'aller en découdre. Alors les amis, accompagnez-nous, soutenez-nous. Allons ensemble vers ces conquêtes, celles de la présidentielle, des législatives, puis des municipales. Je crois que Paris le mérite bien et la France le mérite bien.
C'est excellent. Bien, mes chers amis, je voudrais à mon tour vous souhaiter une très très bonne année 2007. Ça va être une année très importante, chacun l'aura compris. Et je suis heureux de répondre à l'invitation de Vincent Roger qui m'avait dit, c'est une petite réunion comme ça amicale, où on ne verra que des amis, et c'est bien ce que je constate, puisque je retrouve Jean-François Lamour, mon ancien complice du gouvernement, et je veux lui dire toute l'admiration qui est la mienne pour le travail qu'il a fait. Je pense notamment au combat que tu as mené, Jean-François, pour la lutte antidopage, qui vient défigurer le sport de haut niveau et le sport international, et qui fait aujourd'hui de notre pays, la lutte antidopage, une référence internationale. Voilà, puis j'aime bien Jean-François Lamour parce que j'ai l'impression, même si ça m'est jamais arrivé, que je devrais pouvoir le battre à la course à pied. Alors, battre un champion olympique, pour moi, c'est quand même un objectif. Et je surveille tous les jours, sa forme physique et je me dis que, voilà, je dois pouvoir y arriver. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de trouver ici Philippe Goujon. On se croise très souvent en ce moment. Philippe Goujon, c'est l'homme clé de la fédération UMP de Paris, la fédération la plus puissante au sein de notre formation politique. Philippe, c'est toute l'affection que j'ai pour lui. Nicolas Sarkozy lui est très reconnaissant d'avoir réussi à mener à bien les primaires à Paris. Parce que les primaires à Paris, vous savez, il ne faut pas vous y tromper, ça a été quelque chose de déterminant. De déterminant pour Paris et pour le choix de notre candidate à l'élection présidentielle, mais déterminant aussi pour la vie future de notre mouvement politique. On ne peut pas défendre la démocratie et refuser de la faire fonctionner au sein des partis politiques. Or, pour la vérité, c'est que ça a été longtemps comme ça. Ça a été longtemps comme ça, les partis politiques qui étaient chargés par la Constitution même, de faire fonctionner la démocratie dans le pays, n'étaient pas démocratiques eux-mêmes. Et ils n'avaient pas de procédure démocratique pour choisir leurs candidats, pour choisir leurs projets politiques. Ce qu'on est en train de faire avec Nicolas, c'est très important. Parce que ça veut dire que demain, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. On ne pourra plus jamais retirer aux adhérents d'un parti politique la décision qui est la leur de choisir leur candidat ou de choisir leur projet. Quand j'entendais ces derniers mois, ceux qui faisaient entendre une petite musique sur le thème, mais c'est pas les militants qui doivent décider qui doit être candidat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Tout ça, la vérité, c'est que c'est du bidon. C'est pour cacher des ambitions personnelles. Parce que comment faire fonctionner une démocratie si on n'est pas capable d'accepter d'abord le jugement des militants, des adhérents de sa formation politique, qui sont les instruments du fonctionnement de la démocratie. Et je crois que ce que nous avons fait à Paris avec les primaires, c'est un pas en avant sur lequel on ne pourra plus jamais revenir et qui nous permettra progressivement, dans notre formation politique, de désigner tous nos candidats à tous les échelons, parce que finalement, le suffrage universel des adhérents, c'est encore la meilleure façon faire le choix entre les hommes et les femmes qui veulent porter, parce qu'ils en ont l'ambition, parce qu'ils en ont la capacité, les couleurs de leur formation politique. Philippe a été relayé dans cette tâche par Jean-Didier Berthaud, que je connais bien, parce que c'est un ami de longue date. Il y a même des gens qui disent que c'est le premier filloniste de l'histoire. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, rassurez-vous. En tout cas, je veux lui dire, parce qu'il a participé à la création de mon association France.9, je veux lui dire toute mon amitié. Je n'ai pas besoin de vous présenter Jean-François Logaret. C'est un élu de grande valeur. C'est un élu créatif, c'est un élu ouvert, c'est un élu passionné. Il a été investi par l'UMP pour les prochaines législatives parce que le centre de la capitale a besoin de lui et il sait qu'il pourra compter sur notre soutien et sur notre appui pour réussir ce combat. Paris n'a pas vocation à être le bastion de la gauche. La capitale n'a pas de raison particulière de vibrer aux sirènes royalistes, pas plus qu'elle n'a de raison de demeurer le précaré de M. Delannoy. Et avec Françoise de Panafieux, vous avez un challenge à relever, et vous allez le relever, et vous allez le réussir. Françoise symbolise l'UMP voulue par Nicolas Sarkozy, une UMP démocratique et une UMP conquérante. Quant à Vincent Roger, c'est un garçon que je connais, j'allais dire, mieux que quiconque, ou presque. Il a été mon collaborateur direct pendant 5 années, après avoir été celui de Philippe Séguin, c'est dire s'il a été à bonne école. C'est un homme fidèle, c'est un travailleur acharné, il a des convictions qui ne varient pas au gré du vent. Je me souviens du rôle important qu'il a joué à l'occasion des célébrations liées au 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz à mes côtés. Je me souviens de son travail lors de la réforme des retraites. Vincent est un homme de cœur, c'est un homme qui se bat pour le 4e depuis longtemps et il est temps qu'il puisse saisir sa chance à la prochaine élection municipale. Alors vous attendez peut-être que ce soir, je vienne vous parler du trou d'air de Madame Royal et de sa campagne. Vous espérez peut-être que je vais vous parler de ses déclarations sur le Québec, qui viennent à la suite d'une longue liste de déclarations hasardeuses sur la politique étrangère. Ou que je vienne vous parler de cette loi sur les violences faites aux femmes, qui sera sa priorité absolue lors du début de son mandat, si elle était élue présidente de la République, loi qui a été votée par la majorité UMP au mois d'avril dernier, et qui s'applique, et que les magistrats eux-mêmes disent qu'ils l'appliquent avec la plus grande fermeté. Et c'était d'ailleurs une loi qui avait été, sur beaucoup d'aspects, voulue par Nicolas Sarkozy, notamment sur cet aspect très important, qui permet de sortir celui qui bat l'autre, et en général l'homme qui bat la femme, du logement du couple, alors que jusqu'à maintenant c'était l'inverse qui se produisait lorsqu'une femme était battue par son mari et que la police, la justice intervenait, c'était la femme qu'on sortait du logement et le mari qui y restait. Vous attendez peut-être que je vous parle des débats participatifs. Ces fameux débats participatifs qui ne sont en fait que des réunions de militants socialistes, au cours desquelles toutes les questions sont balisées à l'avance et dont Madame Royal dit qu'elle tiendra le plus grand compte, tout en affirmant régulièrement qu'il y a des sujets sur lesquels elle a déjà tranché. Puisque sur la Turquie, on va écouter les Français pour savoir ce qu'il faut penser, mais sur les 35 heures ou sur le service minimum, manifestement, elle n'entend pas la voix des débats participatifs. Je pourrais vous dire d'ailleurs combien ces débats participatifs sont bien moins participatifs que ceux que nous avons organisés pendant 18 mois à l'UMP, qui ont réuni près de 500 000 personnes et qui nous ont conduits à recueillir l'avis d'hommes et de femmes très éloignés de notre famille politique. Parce que franchement, faire des débats participatifs uniquement avec les militants de son parti, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais enfin, ça ne produit pas en général des idées extrêmement originales, parce que quand on est engagé ensemble dans un parti autour d'un certain nombre de convictions, on ne représente pas l'ensemble du territoire national. Nous, on a fait venir dans nos débats participatifs, qu'on appelait des conventions, des hommes et des femmes, parfois, qui étaient nos adversaires. Je me souviens, par exemple, de la convention sur l'éducation, où on a fait venir M. Askiri, qui n'est pas franchement un ami de l'UMP. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de militants de l'UMP, ou beaucoup de dirigeants du MEDEF, ou beaucoup de chefs d'entreprise, ou beaucoup qui aient été invités au débat participatif de Mme Royal. Vous attendez peut-être aussi que je vous parle de ces marchandages avec les Verts et avec Jean-Pierre Chevènement pour obtenir le soutien des uns et des autres, marchandages qui, naturellement, lorsqu'ils sont totalement contradictoires, conduisent à ce qui vient de se passer hier et aujourd'hui, où Mme Royal a déclaré qu'elle voulait réduire significativement, très significativement, la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité française. Elle a dit qu'il fallait descendre à 50%. On est à 80% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut fermer 30% des centrales nucléaires françaises. Jean-Pierre Chevènement dit dans Le Monde ce soir, « Madame, nous avions un contrat. Dans le contrat que nous avions signé ensemble pour que je ne me présente pas à l'élection présidentielle, il n'y avait pas que des engagements alimentaires, c'est-à-dire des postes pour des députés de son mouvement politique, car Jean-Pierre Chevènement a des convictions aussi, il y avait des éléments de fond. Et il y avait notamment l'engagement que Mme Royal avait pris devant lui de pousser, de développer l'énergie nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire est une un des atouts majeurs de notre pays, aussi bien sur le plan économique, sur le plan industriel, que sur le plan de la protection l'environnement. Eh bien non, je ne vais pas vous parler de tout ça. Je ne vais pas vous parler de tout ça parce que je voudrais placer l'enjeu de l'élection présidentielle ailleurs. Je voudrais le placer au-delà de ces sujets. Je voudrais le placer au-dessus de la question de savoir si Mme Royal est une bonne ou une mauvaise candidate. Parce que je pense que notre pays approche de l'heure de vérité. Je pense que l'élection présidentielle de 2007 va être pour la France une véritable heure de vérité. Il va falloir choisir, une fois pour toutes, si nous sommes un vieux peuple fatigué, qui n'a plus envie de se battre, et qui considère au fond que une sorte de déclin tranquille n'est pas un sort qu'il rejette, ou si nous voulons au contraire entrer de plein pied dans le 21e siècle. On est en 2007, mais on n'est pas entré, nous, Français, vraiment dans le 21e siècle. On continue de regarder le monde sans véritablement voir ce qui s'y passe. Et c'est ça l'enjeu de l'élection présidentielle. La vérité, c'est que la crise politique que nous connaissons, la crise de confiance qui a conduit au 21 avril 2002, c'est-à-dire à un rejet massif par les Français du système politique, qui s'est reproduit avec les élections régionales ou encore avec le référendum, cette crise de confiance, elle ne sera résolue que si la gauche et la droite arrivent devant les Français en présentant un projet et en leur donnant tous les éléments pour choisir. On peut naturellement s'envoyer à la tête les bilans des uns et des autres. Il y en a sûrement qui vont le faire. On va discuter du bilan de M. Jospin et du bilan de M. Chirac. C'est un débat que nous sommes prêts à avoir, car on démontrera assez facilement que le nôtre est meilleur que le leur. Et d'ailleurs, si le nôtre n'était pas meilleur que le leur, on aurait du mal à comprendre pourquoi M. Jospin n'a même pas été au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Mais c'est un débat qui n'a aucun intérêt, parce que c'est un débat qui ne nous permet pas de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui à la France. La vérité, c'est que depuis 1981, nous refusons de voir que le monde a changé. Nous refusons de voir que cette domination qui était la nôtre, celle de la France et de quelques pays développés, est terminée. Avec la chute de l'Union soviétique, avec la fin de la guerre froide, nous n'avons pas seulement gagné la paix, nous avons aussi en face de nous une mondialisation qui remet complètement en cause nos avantages et nos atouts. Nous étions quelques pays à nous partager les richesses du monde. Aujourd'hui, des continents entiers se lèvent, se réveillent et réclament leur part de richesse. Voilà, c'est la réalité. Nous sommes en train de vivre sur notre héritage, et c'était un bel héritage, c'est pour ça qu'on peut vivre encore un certain temps confortablement dessus, mais ça devient de plus en plus difficile, alors que eux, ces pays-là, ces continents-là, sont en train de constituer le leur. Et ils ont toute l'énergie de peuples jeunes qui sont en train de bâtir leur développement. Si nous ne voyons pas ça, et si nous refusons de nous adapter à cette situation, alors nous sommes condamnés au déclin. Et la vérité oblige à dire que depuis 1981, nous n'avons pris aucune décision qui nous ait permis d'affronter cette mondialisation dans de bonnes conditions. On a même fait exactement le contraire. Et c'est la gauche, naturellement, qui a la responsabilité la plus forte. Et là, pour ne prendre que trois exemples, baisser l'âge de départ à la retraite au moment où tous les autres pays commençaient à réfléchir à son allongement. Elle a enfermé l'université française dans une loi scélérate qui l'a conduit au déclin qui est le sien aujourd'hui. Elle a, pour ne prendre que trois exemples, diminué le temps de travail au moment où tous les autres pays européens s'interrogeaient sur la meilleure façon d'améliorer leur compétitivité. Donc la gauche a une responsabilité énorme dans le déclin qui est le nôtre aujourd'hui. Mais la vérité oblige aussi à dire que la droite, quand elle a été au pouvoir, 11 ans sur les 25 années qui viennent de s'écouler, ou les 26 années qui viennent de s'écouler depuis 81, n'a pas été suffisamment courageuse pour revenir de manière radicale sur les décisions qui ont été prises. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons aujourd'hui une rupture. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le débat bilan contre bilan n'a aucun intérêt. Car bilan contre bilan, c'est l'assurance de continuer comme avant. Or, nous ne voulons pas continuer comme avant. Nous voulons aujourd'hui reconnaître les responsabilités des uns et des autres, tirer les conséquences des erreurs qui ont été commises et engager une nouvelle politique en s'appuyant naturellement sur les efforts qui ont été entrepris ces cinq dernières années, en les amplifiant et sur certains sujets en pratiquant une vraie rupture. Et je voudrais prendre simplement ce soir quelques exemples de cette rupture et de la manière dont nous allons conduire cette campagne. D'abord, nous allons débattre de notre vision de la France. Cette vision de la France, Nicolas Sarkozy l'a présentée au congrès du 14, dont tu as dit tout à l'heure, à juste titre, qu'il avait été un tournant dans la vie politique française de ces dernières années. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, dans son discours, le projet que nous présentons est un projet qui propose aux Français un rassemblement autour d'un objectif qui est un objectif de plein emploi, de croissance, qui est un objectif d'entrée de plein pied dans le 21e siècle. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a affirmé que la France, c'était la France de l'Ancien Régime et la France de la Révolution. Que la France, c'était pas des classes sociales qui s'affrontaient, c'était un rassemblement, c'était un peuple uni par une culture, par un passé et par un modèle social et économique que nous voulons mettre au goût du jour. La gauche s'est offusquée de ces allusions à des grands noms de la gauche ou de cette manière de rassembler l'histoire de l'Ancien Régime et celle de la Révolution française. Heureusement, il y a quelques voix à gauche qui se sont dressées pour dire que le camp du sectarisme n'était pas celui que l'on croyait. Jean Daniel, dans un éditorial remarquable du Nouvel Observateur, a taclé M. Hollande et Mme Royal qui nous déniaient le droit de citer les grands hommes qui ont fait l'histoire de France, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ou de dire que la Révolution n'était pas le début de l'histoire de notre pays. Voilà, nous voulons rassembler les Français. Quand François Hollande dit « j'aime pas les riches » et qu'il fixe le seuil de la richesse à 4000 euros, au fond, il montre cette vision qu'a la gauche de la France. Une vision qui consiste à opposer les uns aux autres. Une vision qui consiste à trier ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Le peuple de gauche, comme disait autrefois François Mitterrand. Voilà le premier enjeu de cette élection présidentielle. Le rassemblement d'un côté, les divisions sociales de l'autre. Et puis je voudrais prendre trois exemples pour vous montrer au fond comment nous allons aller au fond des choses et comment nous allons placer notre projet en face de celui des socialistes. Trois exemples autour du pouvoir d'achat, du logement ou de la fiscalité. Nicolas Sarkozy a dit « Moi, je veux être le président du pouvoir d'achat ». On voit bien qu'aujourd'hui, une des causes de la crise, du doute qui saisit les Français, c'est le sentiment qu'ils ont de l'appauvrissement de notre pays. C'est le sentiment qu'ils ont que les classes les plus modestes de la société ne peuvent pas espérer accéder à la classe moyenne et que les classes moyennes sont en train de glisser vers les classes les plus modestes. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation ? Parce que la France a réduit son temps de travail. Et nous avons aujourd'hui une situation qui est paradoxale. Nous avons le coût horaire le plus élevé ou l'un des plus élevés de tous les pays développés. Et en même temps, on a les salaires les plus bas pratiquement des grands pays développés. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 350 euros de différence entre le salaire brut mensuel moyen européen et le salaire brut mensuel français. Nous sommes 350 euros en dessous de la moyenne des salaires européens. Et pourtant, nous avons le coût horaire le plus élevé, évidemment, puisque nous travaillons moins que les autres. Et nous voulons rompre avec cette logique. Nous voulons rompre avec cette logique qui fait qu'aujourd'hui, la France est le pays en Europe où l'on travaille le moins. Ça ne veut pas dire que les Français n'ont pas envie de travailler. Ça veut dire simplement que nous avons fait des choix qui ont toujours privilégié le partage du travail plutôt que la croissance. Quand un étudiant travaille, il perd sa bourse. Quand une entreprise est en difficulté, on se précipite pour mettre les gens en pré-retraite. Quand quelqu'un a besoin d'être aidé, on l'aide, mais on l'aide à un tel niveau que les revenus de l'assistance finissent par égaler ceux du travail. Et en plus, on réduit le temps de travail de tous les Français. Et le résultat, il est clair aujourd'hui, en Europe, nous sommes de loin le pays où l'on travaille le moins. Il y a, si vous prenez le nombre d'heures travaillées et que vous le ramenez à la population totale de notre pays, un écart de 20% avec les Espagnols, un écart de 30% avec les Britanniques et un écart de 40% avec les Américains. Alors ce n'est pas naturellement seulement sur la semaine de travail, c'est le temps de travail hebdomadaire, plus le taux de chômage le plus élevé de tous les pays européens quasiment, plus le fait que nous sommes le pays où les seniors, comme on dit, enfin, seniors c'est plus de 50 ans, donc on est un certain nombre à en faire partie, sont le plus souvent privés de travail. Eh bien nous voulons lutter contre cela. Et nous voulons lutter contre cela en augmentant les salaires. Et comment est-ce qu'on augmente les salaires? Eh bien en demandant aux gens de travailler plus. Parce que franchement, augmenter les salaires, quand on a le taux horaire le plus élevé, et qu'on est dans une compétition internationale comme la nôtre, sans demander aux gens un effort, c'est l'assurance de voir le pays continuer de s'enfoncer dans le déclin. Et c'est pour ça que nous avons proposé, pour qu'il y ait un vrai choc sur les revenus du travail, une mesure, j'allais dire, exceptionnelle, qui n'est pas destinée à durer 20 ans, mais qui est destinée à relancer l'activité dans notre pays, l'exonération totale de charges et d'impôts des heures supplémentaires, pour que les gens puissent se dire, bon, moi j'ai envie de bosser plus, moi j'ai une maison à payer, moi j'ai mes enfants qui arrivent à l'âge où les études sont extrêmement chères, j'ai besoin d'un pouvoir d'achat supplémentaire, ben je vais faire 4 heures de plus par semaine et à la fin du mois j'aurai 15% de salaire supplémentaire parce que les heures supplémentaires sont payées 25% et nous allons veiller à ce qu'elles le soient. Elles sont déchargées, donc pour l'entreprise, elles sont finalement au même coût que les heures normales et elles sont déchargées pour le salarié et donc le gain de pouvoir d'achat est plus élevé. On va permettre à tous ces salariés, notamment à tous ces cadres qui fonctionnent avec le compte épargne-temps dans les 35 heures, de choisir entre l'utilisation complète de leur RTT ou la monétarisation de cette RTT. Après tout, quelqu'un qui a beaucoup d'heures à rattraper, il peut choisir de se les faire payer. Alors, on va me dire, c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible, c'est encadré, c'est enfermé dans des règles extrêmement précises. Et puis, on veut, nous, enrichir la substance de l'économie française pour tirer les salariés vers des emplois plus qualifiés et des salaires plus élevés. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons une réforme fiscale. Si nous étions dans un pays où on paie très peu d'impôts, si nous étions dans un pays très libéral, dans un pays où il y a un niveau de fiscalité très bas, les accusations de la gauche contre notre politique fiscale pourraient s'entendre. On pourrait dire que c'est vrai qu'il est normal que les gens qui gagnent beaucoup d'argent paient des impôts pour faire fonctionner l'ensemble de la communauté. Chacun doit participer au fonctionnement de la communauté à la mesure de ses capacités. Mais nous ne sommes pas dans un pays très libéral où on ne paie pas beaucoup d'impôts. Nous sommes dans le pays d'Europe où il y a les prélèvements obligatoires les plus élevés. Avec la Suède, il y a 2 pays en Europe qui ont le niveau de prélèvements obligatoires les plus élevés. Et donc nous ne nous demandons pas que les impôts soient supprimés. Nous ne demandons pas que les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne paient plus d'impôts. Nous demandons simplement qu'il y ait un peu de justice et que l'on ne demande pas à un Français de travailler plus d'un jour sur deux pour payer ses impôts et faire fonctionner la collectivité locale. Parce que si on ne comprend pas cela, alors naturellement nous n'avons aucune chance de développer la croissance, de développer l'activité économique. Tout est fait dans notre pays et dans le discours de la gauche, mais parfois aussi dans le nôtre, pour décourager ceux qui réussissent, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui prennent des risques, ceux qui innovent, ceux qui font fonctionner l'économie, ceux qui donnent de l'activité à notre pays. Il ne faut plus que ceux qui réussissent aient honte de le dire. Il ne faut plus que le seul souci de l'État et du législateur soit de contrôler, d'enfermer,
de pénaliser, de montrer du doigt, au fond, celui qui réussit, parce que dans une économie ouverte comme la nôtre, naturellement, si nous continuons sur cette voie-là, eh bien, nous verrons les talents, les uns après les autres, comme c'est déjà le cas, quitter notre pays pour s'installer ailleurs sur le territoire européen. Je trouve d'ailleurs formidable que cette gauche, qui a défendu pour une large part, c'est le cas notamment du Parti Socialiste, l'entrée dans l'Union Européenne, puis la mise en place de la monnaie commune, l'installation d'un espace économique européen, ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir un espace économique européen qui fonctionne de manière saine s'il y a des différences de fiscalité aussi élevées entre les pays européens. Il y a 4 points d'écart en matière de prélèvements obligatoires entre notre pays et la moyenne des autres pays européens. Alors naturellement, tous ceux qui cherchent les meilleures conditions pour investir, pour se développer, pour faire fructifier le fruit de leur travail et leur imagination, eh bien ils regardent, non pas dans des paradis fiscaux, mais tout simplement en Belgique, en Grande-Bretagne, dans tous les autres pays européens, en Espagne, comment ils pourront trouver les conditions d'accueil qui leur permettront de se développer. Alors voilà, on veut porter ce débat, montrer aux Français que notre choix, le choix que nous faisons, c'est le choix de la réussite, c'est le choix de l'investissement, c'est le choix de l'entreprise, c'est le choix du capitalisme populaire, c'est le choix du capitalisme familial. Nicolas Sarkozy a proposé qu'on puisse réinvestir une partie de son impôt sur la fortune dans les petites entreprises, dans les PME françaises. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, c'est les fonds de pension américains qui achètent nos entreprises. Alors on assiste impuissant à l'achat de toutes nos entreprises par des fonds de pension américains simplement parce que on est accroché à un dogme socialiste, à un dogme de gauche qui est que c'est pas bien de gagner beaucoup d'argent et qu'il faut taxer au maximum ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Franchement, moi je préfère voir l'argent des Français qui réussissent investi dans les petites entreprises françaises pour qu'elles se développent et qu'elles créent des emplois plutôt que de voir les fonds de pension racler tout ce qui fonctionne bien dans notre pays pour alimenter les retraites de nos amis américains. Sur le logement, c'est la même chose. On va dire la vérité aux Français. On va leur dire que s'il y a une crise du logement dans notre pays, c'est pour une simple raison, c'est qu'on n'en a pas construit assez. Et pas depuis 5 ans, depuis 20 ans. La vérité, c'est que avant 1981, vous verrez que cette date de 1981 va revenir souvent dans cette campagne électorale. Avant 81, on construisait près de 500 000 logements par an, dont 100 000 logements sociaux. Entre 96 et 2002, on est tombé à 310 000 logements, dont 40 000 logements sociaux. C'est le niveau le plus bas de toute l'histoire de la Ve République. Voilà pourquoi, tout simplement, aujourd'hui, les loyers sont aussi élevés et les prix de l'immobilier aussi importants, parce qu'il manque 700 000 logements dans notre pays. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis le gouvernement de Dominique de Villepin, a fait un énorme effort dans ce domaine. On est reparti à la hausse. On est à 370 000 logements par an, dont 71 000 logements sociaux. Et la courbe est en train de s'accentuer. L'objectif est de faire 500 000 logements sociaux d'ici 2009. Eh bien, nous allons dire aux Français que pour faire baisser la contrainte sur le logement, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, pour éviter que leur loyer leur prenne plus de 25% de leurs revenus, il faut construire. Il faut construire, construire et construire. Il faut construire des logements pour que les gens qui veulent accéder à la propriété puissent le faire. Et pour ça, on va généraliser l'emprunt hypothécaire. On va créer un vrai statut de l'investisseur dans le locatif pour sécuriser la situation des investisseurs. Et en particulier, nous voulons créer un système de cautionnement et d'assurance de garantie de loyer, et nous voulons à l'avenir interdire tous ces procédés qui conduisent à réclamer aux locataires des cautions considérables et des dépôts de garantie qui sont totalement incompatibles avec les possibilités de nos concitoyens. On veut que le logement social soit construit aussi bien par le public que par le privé, parce qu'on sait que sans l'initiative du privé, on n'arrivera pas à rattraper le retard qui est le nôtre. On veut lancer un grand programme de recherche dans le domaine du logement écologique, du logement respectueux de l'environnement. Évidemment, ici, dans cet arrondissement, la question du logement individuel ne se pose pas tout à fait comme dans ma circonscription de la Sarthe. Mais je peux vous dire que sur une immense partie du territoire national, quelle est l'aspiration des jeunes ménages français? C'est d'avoir une maison. Comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens. Et naturellement, cette maison, ils ne voudraient pas que ça soit le pavillon comme leurs parents et leurs grands-parents, là, le pavillon tous pareil et qui, au bout de 30 ans, fuit de partout. Et donc, un des objectifs que nous nous fixons avec Nicolas, c'est de lancer un grand programme national de recherche pour mettre au point des procédés de construction respectueux de l'environnement qui donnent aux Français la possibilité, à tous les Français, y compris aux plus modestes, d'accéder à la propriété, parce que accéder à la propriété, au fond, c'est une sécurité pour l'avenir dans un pays qui aujourd'hui en recherche. Qu'est-ce que proposent les socialistes pour le logement? Ils disent on va construire 120 000 logements sociaux par an. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais dépassé 50 000. On ne sait pas très bien comment ils vont y parvenir. Ils proposent, pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, de mettre en place une arme secrète qui s'appelle la TIPP flottante, c'est-à-dire la baisse et la hausse des taxes sur le carburant en fonction de la hausse et de la baisse du prix du brut. Outre que ça se solde en général par quelques centimes d'euros d'économie ou d'augmentation, que c'est totalement contradictoire avec les engagements environnementaux qu'ils ont pris, qui sont des engagements qui visent à réduire la consommation de pétrole dans notre pays. C'est surtout totalement contradictoire avec ce que font les élus socialistes dans les régions, qui n'ont de cesse que d'augmenter la TIPP, ce qu'ils viennent de faire en utilisant au maximum les possibilités qui leur étaient offertes. Voilà la campagne que nous allons mener. Je n'ai pris que deux ou trois exemples pour vous montrer que cette campagne, ça sera à la fois une campagne sur la vision qui est la nôtre de notre pays, sur le rassemblement des Français, mais ça sera aussi une campagne concrète qui répondra aux attentes des Français, qui répondra aux questions que les Français se posent et qui visera à ne jamais fuir la vérité que nous avons trop longtemps dissimulée à nos concitoyens. Et je voudrais terminer sur un exemple. Pourquoi est-ce que les socialistes ont construit aussi peu de logements pendant les 5 années où ils ont été au pouvoir? Sans doute parce qu'ils n'étaient pas très motivés, mais surtout parce que ils ne voulaient pas regarder en face deux questions. La modification de la cellule familiale, qui fait qu'on a besoin de plus de logements aujourd'hui pour loger le même nombre d'habitants, parce qu'ils ne logent plus ensemble, autant qu'autrefois. Et puis peut-être une autre question, plus taboue, qui était la question de l'immigration. Quand on refuse de voir qu'il y a 100 ou 150 000 personnes qui rentrent chaque année de manière plus ou moins clandestine dans notre pays et qui y restent, et bien naturellement, on est incapable de programmer une politique de logement, une politique sociale qui ne soit pas démentie par les réalités. Si vous faites le compte, 100 000 personnes tous les ans, pour lesquelles personne n'a jamais pensé à la manière dont ils seraient accueillis, mais ça conduit aux impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et à l'absence des logements dont nous avons besoin. Et donc c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous, qu'une politique de l'immigration qui soit une politique humaine, qui soit une politique réaliste, qui soit une politique audacieuse, pas la politique d'un pays qui se renferme sur lui-même, pas la politique d'un pays qui veut simplement rester entre soi, mais la politique d'un pays qui n'accueille sur son territoire que les hommes et les femmes qu'elle est capable de loger et auxquels elle est capable de fournir un travail. Voilà un sujet qui était un sujet tabou, que Nicolas Sarkozy a réussi à mettre au cœur du débat politique, que l'on aborde aujourd'hui sans crainte de le faire, sans tomber dans les caricatures des gauchistes ou de l'extrême droite, et qui est fondamental pour l'avenir de notre pays. Nous ne réussirons pas à redresser notre situation économique et sociale si nous ne sommes pas capables de maîtriser les flux d'entrée et de sortie sur notre territoire. Voilà, mesdames et messieurs, de manière peut-être décousue, mais c'était au fond pour moi une façon de tester un peu quelques-uns des arguments que je vais essayer d'utiliser demain soir contre François Hollande sur France 2, puisque nous allons parler de toutes ces questions. Donc je me suis servi de vous un peu ce soir comme cobaye pour roder quelques-uns des arguments. En tout cas, je voudrais vous dire que cette campagne va être une campagne très importante. C'est une campagne qui dépasse complètement nos destins personnels. La question, franchement, n'est pas de savoir qui est le meilleur de nos candidats face à telle ou telle situation politique ou dans tel ou tel débat, la question est de savoir quel est celui qui aura le courage de dire la vérité aux Français et de remettre le pays sur ses pieds pour lui permettre de regarder en face l'avenir. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Nicolas Sarkozy, c'est mon candidat, je l'ai choisi, je le soutiens et je vous souhaite à tous une bonne année 2007.
Merci, merci François, merci à vous tous, merci pour votre présence. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une campagne conviviale, et donc je vous invite simplement à traverser la rue pour nous rejoindre au Vin des Pyrénées pour prendre un apéritif en commun. Mille merci à tous. Apéritif.